Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, mission à l'étranger, le Premier ministre Albert Ouédraogo veut mettre de l'ordre dans les missions des ministres à l'étranger et souhaite que les missions diplomatiques à l'étranger soient mises en contribution. Hadj 2022, après 2 ans de suspension suite à la pandémie de Covid-19, les musulmans burkinabés pourront à nouveau effectuer le pèlerinage à la Mecque. Les vols de départ sont prévus du 21 au 28 juin. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023, les étalons du Burkina Faso affrontent aujourd'hui même à 13h temps universel l'Eswatini pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, fixe à 2 ans la durée de la transition malienne. À compter du 26 mars, nous entendrons le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Les épreuves du certificat d'études primaires CEP débutent ce mardi 7 juin et ce sont 431 761 candidats inscrits qui vont à la conquête de leur premier diplôme à travers 1925 centres de composition. Le Premier ministre burkinabé Albert Ouédraogo veut mettre de l'ordre dans les missions de ses ministres à l'étranger. Il a entre autres invité les membres du gouvernement à se concentrer sur les dossiers urgents et prioritaires de leurs départements respectifs et à le tenir informé de leurs missions afin que les missions diplomatiques à l'étranger soient mises à contribution. Plus de détails avec Brigitte Yoda.
Dans une lettre confidentielle datée du 26 avril 2022 et consultée par Omega Media, le docteur Albert Ouédraogo dit avoir constaté que des membres du gouvernement introduisent régulièrement des rapports en Conseil des ministres pour effectuer des missions visant à participer à des rencontres à l'étranger. Le chef du gouvernement reconnaît que ces rencontres constituent des espaces de présence et de rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale, mais invite les ministres à déléguer leurs collaborateurs ou à collaborer avec les missions diplomatiques pour les représenter au cas où ces rencontres n'impliquent pas de décisions nécessitant une participation obligatoire au plus haut niveau ministériel. Dans cette lettre adressée à tous les ministres avec ampliation au président du Faso, Albert Ouédraogo instruit aussi ses ministres à le tenir informé obligatoirement et à bonne date des missions à l'intérieur du territoire national. Le chef du gouvernement termine sa lettre en invitant les ministres à rester concentrés sur l'organisation de leurs départements respectifs et sur l'appropriation des dossiers urgents et prioritaires afin d'assurer une mise en œuvre diligente de la feuille de route de la transition.
Pénurie de gasoil dans la ville de Ouagadougou. Depuis quelques jours, le gasoil n'est plus disponible dans les stations-service et cela dû à une rupture d'approvisionnement qui impacte fortement le secteur des transports en commun. Une équipe d'Omega Media a fait le tour des différentes gares et parcs de taxis. Suivez le reportage, il est signé Régis Bonny.
Cette pénurie du gasoil impacte fortement le secteur des transports en commun urbains et interurbains. Du côté des transporteurs comme de celui des chauffeurs de taxi, tous sont unanimes. La pénurie du gasoil affecte très négativement leur activité. Ici, à la gare routière de la Padoie qui est mitoyenne du mur de l'aéroport, les transporteurs grincent des dents.
Il n'y a pas de client, il n'y a pas de gasoil. Mais le problème du gasoil n'est pas simple. Parfois tu arrives à la station pour te ravitailler avec le bidon de 20 litres. Ça fait 20 000 francs. Et dans tout ça, le prix du transport a augmenté. Ceux qui payent avec les bidons ajoutent leurs bénéfices.
Les chauffeurs de taxi, quant à eux, se sentent délaissés. Si certains accusent les pompistes des stations-service de leur refuser le gasoil, tous demandent une prompte réaction du gouvernement.
Nous, on ne peut plus avoir de gasoil. Tu arrives dans un station, il est en train de servir des gros camions ou de quoi. Tu t'approches, tu es taxi, mais on refuse qu'il n'y a pas de gasoil. On ne peut même pas avoir à manger. Il n'y a rien, plus de travail. On nous dit de payer stationnement. Comment on va faire pour vivre? Ou bien on nous a dit de quitter dans le pays.
Pour les sociétés de transport en commun, elles sont dans une situation embarrassante, même si elles arrivent, tant bien que mal, à assurer leur départ quotidien.
Et ça nous met quand même un peu mal à l'aise. Malgré que nous arrivons à maintenir nos départs habituels, ça ne nous permet pas forcément de surexploiter comme nous voulons, de mettre assez de bus. On est obligé de faire les services minimums, voilà, de gérer les services minimums.
Le secteur des transports en commun semble plus touché par cette pénurie de gasoil. Espérons que la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, trouve une solution rapide afin de permettre à ce secteur de respirer un tant soit peu.
Hadj 2022, après 2 ans de suspension suite à la pandémie de Covid-19, le pèlerinage à la Mecque reprend cette année. Les vols de départ sont prévus du 21 au 28 juin et chaque pèlerin devra donc débourser la somme de 3 047 000 francs CFA pour prendre part au Hadj 2022. L'annonce a été faite hier à Ouagadougou lors d'une conférence de presse tenue par le comité d'organisation en présence du ministre en charge des affaires religieuses Issaka Sourouema. Le compte-rendu signé Abdulaziz Zoulabou.
Les différents départs pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam vont se tenir du 21 au 28 juin pour ce qui concerne l'édition de l'année 2022. Les frais de participation sont fixés à 3 047 000 francs CFA. Cette augmentation substantielle de ce montant par rapport aux années précédentes s'explique par la hausse des frais de prestation au niveau de l'Arabie Saoudite, mais pas que ça. Mamadou Sawadogo est le secrétaire permanent du pèlerinage.
Le ministre a parlé du billet d'avion. Il y a également les prestations saoudiennes. Quand on parle de prestations saoudiennes, c'est l'ensemble des coûts que les pèlerins auront à supporter pendant leur séjour là-bas. Et quand on parle de ça, il y a naturellement le déplacement, il y a l'alimentation, et puis bien sûr d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Alors, il y a également le visa.
Autre fait majeur de cette édition, il s'agit de la réduction du nombre total de pèlerins au niveau mondial. Seulement 3686 places sont accordées au Burkina contre 7246 en 2019. Après 2 éditions reportées, la priorité sera donc accordée aux inscrits de ces éditions. Issaka Sourouema, ministre des Affaires religieuses.
Les années antérieures, le nombre de pèlerins au plan mondial varié entre 2 millions et 2 500 000. Cette année, c'est 1 million pour l'ensemble du monde. Donc, évidemment, si c'est 1 million pour l'ensemble du monde, vous comprenez que c'est une réduction assez drastique. Bon, pour ce qui concerne en tout cas des pays tels que le Burkina, nécessairement.
Le retour des pèlerins aura lieu du 18 au 29 juillet et leur transport sera assuré par la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. L'État burkinabé a apporté une subvention de 800 millions de francs CFA au comité d'organisation, a précisé le ministre des Affaires religieuses.
La coordination des organisations pour la libération de Rockaboré demande l'aide de l'UPC. L'Union pour le progrès et le changement se dit donc favorable à la doléance. Et Zéphirin Diabré, le président de l'UPC, s'est exprimé hier à l'issue de la visite de la coordination des organisations pour la libération de Rockaboré. Selon le porte-parole Désiré Ginko, cette visite est le début d'une tournée au plan national, toujours dans le même cadre. Le compte-rendu Asmao Dao et Soumina Traoré.
Cette visite à l'UPC s'inscrit dans le cadre des voies et moyens entrepris par des organisations de la société civile pour, selon eux, obtenir la libération de l'ex-président Rockaboré. Désiré Ginko est le porte-parole de la coordination des organisations pour la libération de Rockaboré.
Pour notre coordination ici, de porter notre voix et de faire la promotion du dialogue dans la résolution de cette situation, raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer l'UPC, qui est l'un des grands partis politiques de notre pays, qui défend aussi les principes de liberté et de défense des droits humains.
Pour sa part, l'Union pour le progrès et le changement note une démarche de considération. Ce parti libéral, allié de l'ex-parti au pouvoir, marque son accord pour un solutionnement par le dialogue. Zéphirin Diabré, le président du parti, était ministre de la Réconciliation nationale jusqu'au renversement du président Kaboré le 24 janvier dernier.
Notre parti, bien entendu, a non seulement prêté une oreille attentive à ce qu'a dit donc le coordinateur donc, des organisations qui œuvrent donc pour la libération du président Kaboré, mais nous marquons notre disponibilité dans le cadre d'un dialogue républicain à apporter notre contribution pour que non seulement cette liberté soit obtenue, mais surtout qu'elle s'étende à toutes celles et tous ceux qui pourraient être amenés dans le contexte actuel d'état d'exception à être privés donc de leur liberté, donc de leurs droits humains.
Cette visite à l'UPC est un début d'une tournée auprès des organisations politiques, religieuses, coutumières, ainsi que des institutions, toujours dans le même cadre, la quête d'une liberté réelle pour l'ex-président Kaboré, selon leur porte-parole, Désiré Guingo.
Nous vous l'annoncions en titre, hors de chez nous, dans un décret pris hier, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, fixe à 24 mois, soit 2 ans, la durée de la transition à compter du 26 mars. Quelles sont donc les implications d'un tel décret? Écoutons le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, qui nous donne plus de détails.
Je voudrais d'abord indiquer que ce décret a deux grandes significations. D'abord une signification juridique, une signification politique. Sur le plan juridique, l'adoption de ce décret fixant la transition pour 24 mois de manière rétroactive, qui commence donc le 26 mars 2022, a tout son sens. Cela relève tout naturellement de la rigueur juridique, proroge donc la transition. Il ne s'agit pas d'une nouvelle transition, il s'agit d'une prorogation de la transition. Et surtout évite le vide. Un autre élément, en tout cas sur le plan juridique, il est important de préciser que cette prorogation implicite de la transition est prévue dans la charte révisée. Sur le plan politique, je voudrais ici rappeler que la mention aux recommandations des assises nationales de la refondation a tout son sens. Il vous souviendra que les délégués qui ont pris part à ces assises nationales de la transition ont fixé, bien entendu, une période de plancher de 6 mois de la transition, une période de plafond de 5 ans. En adoptant le décret, le chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, prouve à suffisance sa ferme volonté de défendre les intérêts supérieurs du peuple malien, c'est-à-dire de mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles avant l'organisation des élections. Un autre message, bien entendu, sur le plan politique, je pense qu'ici, il s'agit très clairement d'une réponse, vous savez, aux personnes qui accusent injustement les autorités de la transition de vouloir s'éterniser au pouvoir.
En République démocratique du Congo, 2 militaires ont été tués et 5 autres blessés dans le Rutshuru, en province du Nord Kivu. C'est le bilan des affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23, bilan livré par le porte-parole du gouverneur militaire. Ces combats sont intervenus peu avant l'ouverture de la réunion à Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et le porte-parole militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, d'ajouter que cette attaque a coïncidé curieusement avec le démarrage hier à Goma de la réunion des responsables militaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Est venus au chef-lieu du Nord Kivu pour réfléchir sur les voies et moyens de sécuriser la région, en d'autres termes, éradiquer les groupes armés. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Fidel Compaoré. À la présentation, je suis Abdoul Kader Konaté. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.